Cette semaine, on vous présente des gens pour qui une autre personne a servi de bougie d'allumage dans leur envie de s'investir socialement. Ainsi, c'est un ami qui a suggéré à André Fauché d'aller donner un coup de main à des gens dans le besoin. Ça a été, de ses propres mots, le tremplin vers la création de « Un cœur pour les autres » qui distribue des repas et diverses denrées, notamment au parc Émilie-Gamelin. C'est l'histoire d'un homme et de sa femme Linda et de nombreux bénévoles qui ont décidé de nourrir le ventre, mais aussi le cœur de ces personnes qui fréquentent, comme on le dit, le parc Émilie-Gamelin à Montréal, qui est tout près de nos studios de Canal M, qui est situé sur Sherbrooke-Est. Vous serez sans doute inspirés de voir comment André, qui évoluait dans le secteur de la construction, n'était pas nécessairement destiné au travail communautaire, d'autant que vous allez l'entendre, il était rempli de préjugés sur les personnes en situation d'itinérance et à force de les côtoyer, il a vraiment changé son chapeau de bord. En seconde partie, nous recevons Guillaume Vermette qui, lui, a su à ses 17 ans qu'il voulait devenir un clown humanitaire, mais il ne savait pas qu'il y avait déjà un mentor qui existait. Et peut-être spontanément, chers auditeurs, vous pensez à Patch Adams qui a inspiré le film avec Robin Williams dans le rôle, le titre. Et Guillaume s'est dit « ben moi, je me promets de faire ça ». Il s'est retrouvé avec le numéro de Patch Adam entre les mains. Il l'a appelé à essayer et ça a été le début d'une grande aventure. Guillaume a visité une quarantaine de pays où sont installés des camps de réfugiés afin de faire sourire jeunes et moins jeunes. Il en a tiré un livre qui est très touchant, drôle. On rit parfois jaune d'entendre tous ses récits. C'est un livre d'une certaine manière collectif dont tous les profits vont... pour les causes qu'il soutient. Il a aussi créé ici au Québec la caravane philanthrope. Alors, ça s'appelle « Un sourire à la fois » par Guillaume Vermette. C'est publié aux éditions La Galère. Donc, une courte pause et on reçoit André Fauché de « Un cœur pour les autres ». Mon premier invité incarne ce qu'on pourrait dire avoir le cœur sur la main. Et d'ailleurs, il a choisi d'insérer le mot cœur dans le nom même de son organisme, Un cœur pour les autres. C'est avec plaisir que je reçois en studio le président fondateur d'un organisme qui, ma foi, est bien actif depuis 20 ans, Monsieur André Fauché. Bonjour, André.
Bonjour. Ça va bien?
Oui. Je me disais à quel point vous auriez pu passer complètement à côté de cette mission-là. Vous n'étiez pas nécessairement prédestiné à ce que vous faites depuis 20 ans.
Non. Ou si on retourne en arrière, moi, j'étais contracteur.
Oui.
Ça a bien été pendant très longtemps. Puis après, à un moment donné, ça a mal été, mais ça a duré un an. C'est pas été bien long.
Mm-hmm.
Puis là, je me suis mis en question.
Oui.
Puis, parce que normalement, on dit au bout de 5 ans, t'es pas mal solide. Au bout de 10 ans, ben, t'es bien ancré. Puis après ça, ben, tout va bien.
Ouais.
Mais moi, c'était au bout de 20, 25 années, c'est là que ça a commencé à mal aller.
Oui. C'était autour de vous ou vous vous posiez des questions sur votre rôle dans la société, la vie, ce que vous vouliez faire?
Ben, moi, disons qu'en partant. J'ai une base chrétienne, mm-hmm. en partant. Puis, avec les années passent, mais on se demande un peu, comme beaucoup de monde, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Parce que le travail, c'est une chose, la maison, c'est une autre. Mais Dieu existe-t-il vraiment? C'est un petit peu la question que...
Puis qu'est-ce que je suis venu faire ici?
Exactement ça, parce que les gens vivent puis meurent. Tout le monde a le même cheminement. Mm. Tout le monde c'est certain d'une chose, on va mourir.
Ouais.
Puis à ce moment-là, ben, tu te poses des questions. Tu dis, c'est quoi je viens faire ici? C'était ma question pendant longtemps.
Oui. Mais comme la compagnie roulait, vous aviez moins le temps peut-être de vous poser ces questions-là.
Ça.
Vous étiez bien occupé.
Oui, très occupé. Puis en plus, ben, quand t'es le patron, un peu, les gens le pensent peut-être pas, mais c'est pas mal plus occupant qu'employé. Employé, t'as de telle heure à telle heure.
Mm.
Mais le patron ou ceux qui sont autour, ça commence, mais tu sais pas quand est-ce que c'est fini. C'est comme ça, la vie.
C'est les soucis aussi des gens qui travaillent avec vous, des clients, de s'assurer que vous mettez de quoi manger sur la table à chaque semaine.
Oui. Avec les années, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on prend, on réalise qu'on a un impact un peu social. Mm-hmm. Toutes les personnes qui travaillent avec toi, autour de toi, dépendent un peu, indirectement, ils dépendent de nous un peu. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, ben, on est porté plus à chercher des nouveaux clients, des nouvelles choses pour occuper tout le temps le personnel à l'année. Moi, j'étais dans le domaine de la construction. Ça veut dire que je cherchais tout le temps des nouvelles idées pour améliorer les conditions de travail. Les gars étaient super bien. Là. Je pense pas qu'il y avait des problèmes avec le personnel. Ouais. Mais c'était pendant des années, c'était tout roulait bien. Puis quand ça s'est mis à débarquer, ça n'a pas été long. C'est plus vite qu'on pense.
Ah ben on dit des fois que la nature a horreur du vide. Il s'est pointé un autre défi. Et vous étiez préoccupé à vous soucier de mettre quelque chose sur la table, mais vous ne saviez pas qu'un jour, vous étiez pour cuisiner beaucoup plus que juste pour vous et votre femme, là.
Oui. Ben disons, moi, c'est ça, dans le domaine cuisinier, je ne connaissais rien.
Oui.
Mais ma femme était une très bonne cuisinière.
Linda.
Oui, c'est ça.
On la salue.
je sais. Probablement qu'elle n'est pas loin, là. Puis avec mon épouse, elle faisait un très bon travail. J'ai trois filles. Mm-hmm. Puis les trois filles, elles s'en occupaient beaucoup parce que moi, étant patron, ben, tu travailles beaucoup, tu es moins souvent à la maison.
Ouais.
Ça veut dire que mes filles, ils me disent que je les ai pas manquées, qu'ils m'ont pas manqué. Mm. Ils ont trouvé que j'étais présent, mais moi, je voyais que je n'étais pas présent. Mm. Je suis content que mes filles ne le voient pas aujourd'hui, mais pour moi, c'était un manque, autant avec mes filles que mon épouse.
Mm. Mais vous dites que vos filles ne semblent pas exprimer qu'elles ont...
Non.
Que ça leur a manqué ou non. Du moins qu'elles ont des difficultés reliées à ça.
Oui, parce que moi, passer Noël ou passer des fêtes, moi, j'étais sur le téléphone. Ça veut dire que quand un client appelait, quand même que c'était... On était rendu assez gros. Le premier téléphone, c'était moi qui l'avais. Que ce soit à monter à Abbey James, que ce soit porté à aller à Sept-Îles, à Bécomo, à Toronto. J'étais toujours impliqué à l'intérieur de ça. Puis même dans le temps de Noël, dans le temps des fêtes, ça arrivait souvent que je devais partir. C'est-à-dire qu'il y a eu un manque de ma part, je pense.
Oui. Mais je pense que vous êtes bien repris. Vos filles doivent être de ce que vous faites depuis 20 ans.
J'espère que oui. Je sais que mes filles, au début, il y en a encore, qui étaient impliquées. Je me rappelle plusieurs fois, mais disons une fois entre autres, là, on s'en allait à Montréal pour aider les démunis. Puis quand on revenait, moi j'avais un pick-up, un camion. C'était un trois places, mais on était quatre. Ça veut dire qu'il y avait toujours une personne qui était assise à terre, mais c'était pas moi, je conduisais.
Ouais, c'était une autre époque, ça. Hein?
C'est ça, exactement ça. Il y a une que ma femme était assise à terre, une de mes filles assise à terre. Puis là, il dégelait, parce que quand on arrivait à Montréal, c'était aujourd'hui, quand on me dit qu'il fait froid, ça dure 3-4 jours. Mais si on retourne, c'est pas si loin que ça en arrière, on retourne, les moins 20, les moins 25, ça durait un mois, là. Quand on dit, quand on embarquait dans le camion pour mes filles, ma femme, là, ils commençaient à dégeler. Ça veut dire que c'est assez difficile pour eux, là. Personne voulait s'asseoir à terre. Mais aujourd'hui, on en rit. Mais ça a été un temps difficile pour toute la gang, là, tout le monde. Là, la température, surtout, c'était froid.
Là, vous parlez de temps difficile. Vous avez nommé démunis. Alors, on n'a pas encore eu l'occasion de présenter là, qu'est-ce qu'un cœur pour les autres. Je me mets à la place de nos auditeurs. Ils doivent se dire, mais que fait André Fauché, sa femme Linda et les bénévoles? Alors, qu'est-ce qu'un cœur pour les autres?
Bon, un cœur pour les autres, c'est notre cœur à nous. C'est le cœur de plusieurs personnes à aider. Notre mission qu'on s'est donnée, c'est aider, puis aimer les gens. Ça veut dire qu'au début, si je le dis tout de suite, c'est pas compliqué, les démunis, les sans-abri, les personnes en difficulté, pour moi, étant entrepreneur, quand ça marche pas, je m'organisais tout seul. On se levait, on se trousse les manches, comme on dit. Mais avec les années, j'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui a la facilité que j'avais de se lever. Puis tranquillement, j'ai réalisé que les gens que je détestais, J'aimais pas un sans-abri, j'aimais pas les bienfaits sociaux, parce que je disais, okay, c'est des profiteurs.
Ben oui, là, vous dites des gros mots détestés, oui, là. Je comprends, oh, oui, que vous aviez des préjugés.
C'est tellement. Oui. Oh, j'avais. Mais aujourd'hui, ça a tout changé. Ça a changé. Ouais. Ça a changé quand on a débuté. Mais au fil des temps, ça change encore. Mais j'avais des. C'était difficile. Même pour moi, aller aider quelqu'un qui quête sur un coin de rue, là.
Vous dites, ben, en bon entrepreneur, vous vous disiez, prends-toi en main, puis vous ne compreniez pas pourquoi.
Non, je comprenais.
Puis là, à force de les côtoyer, vous avez vu leur réalité, vous avez vu que vous aviez peut-être cette chance-là, vous, d'être animé d'une. En anglais, on dit une drive, là,
Une passion.
Une passion, puis de la volonté pour changer les choses.
C'est ça. Puis c'est. Ben, j'ai détesté. C'est une manière de parler. Mais aujourd'hui, je suis là avec eux autres, puis on se fait des câlins. Mm. C'est des affaires que j'avais de la misère, parce que moi, les câlins, on fait pas ça. Là.
Dire aussi que c'est une autre question d'époque?
C'est toute une question d'époque.
Hommes, les câlins,
c'est ça. Puis même encore aujourd'hui, c'est pas facile. Je le fais. Mm. Puis dans le quartier où on est, on est juste ici, on est à peut-être 10 minutes d'ici. Nous autres, on travaille... On l'a dit presque 80 % du temps, c'est au parc Émilie-Gamelin.
Oui.
Ça veut dire que c'est le quartier, c'est le début du quartier gay. Mm. C'est un coin où que les policiers, il y en a beaucoup.
Oui.
C'est une affaire que pour moi, on connaissait pas ça. Parler avec quelqu'un, puis 5 minutes après, il est 2 minutes après lui, on n'est pas habitué à ça. Là. J'ai des gars avec des seringues dans les bras à moitié endormis, je suis pas habitué à ça. Je connais pas ça. J'ai jamais été dans la rue, je connais pas. T'sais, c'est un domaine que, quand on est arrivé, moi, ma femme, avec mes enfants, personne connaissait rien.
Mais qu'est-ce qui a été le déclencheur de tout ça? Je pense qu'il y a un ami là-dedans qui a eu un rôle.
Qu'est-ce qui arrive? Ça a débuté simple. C'est un gars, un de mes amis, qui disait, hey, on va aller dans la rue, on va aller aider les pauvres. Mm. Moi, je me demandais, voyons donc, on va aller aider les pauvres. On peut pas les aider, il n'y a rien à faire.
Ah, ben c'est parce que vous vous disiez, c'est à eux de s'aider. Là.
C'est ça, exactement. Il n'y avait rien à faire pour moi. On y était une fois. Hein. On n'est jamais retourné après avec lui. Mm. Mais moi... Suite à ça, pas longtemps après, c'est que comme j'ai dit, j'étais un chrétien. À l'église où j'allais, il y a eu un monsieur Tommy Barnett. Pour moi, c'était une influence un peu. C'était un Américain. Le gars, il est venu une fois, peut-être il est venu par après, là, mais c'est la première fois qu'il venait à l'église.
Mm.
Puis il est venu parler de son ministère en Californie. Il appelait ça un Dream Center, un centre de rêve. Puis il disait que suite à ça, lui, ça a changé sa vie. Lui était pasteur, mais qu'est-ce qui a changé sa vie, c'est d'aller aider vers les gens, d'aller aider les pauvres, les démunis.
Mm.
Puis quand il est venu, il avait déjà acheté une grosse bâtisse, il avait acheté un hôpital. C'est une grosse place. Il y avait des budgets. Puis il est venu parler de ce qu'il faisait avec les sans-abri, les gens dans la rue qui allaient toutes les semaines donner à même pas plus que toutes les semaines, absolument tous les jours donner à manger, il y en a qui venaient à leurs locaux. C'était très gros. Puis quand il était là 3 jours, au bout de 3 jours, il a dit une chose, il dit... Si j'ai changé la vie d'une personne ici, un qu'une, et j'ai fait ma job.
Mais là, il a changé la vôtre.
Il a changé la mienne. Puis à ce moment-là, moi et ma femme, on s'est pris la main et on a dit, ben, je sais pas s'il y en a d'autres dans l'église, parce qu'on était une couple de mille. Là. On s'est dit, ben, en tout cas, nous autres, on va être là. Puis un mois après, on était au parc Émilie Gamelin à Montréal. On était première place. Avant, un petit peu avant, j'avais été voir s'il y avait des policiers, voir s'il y avait une objection qu'on s'installe à donner à manger. Mais bon, les gars m'ont dit, tant que tu ne déranges pas personne, ça ne dérange pas personne.
André, on va faire une courte pause et on va plonger plus à fond dans ce que vous faites là, concrètement dans Un cœur pour les autres, là, parce que j'ai plein de statistiques. On dit, exemple, 1500 paires de bas, des 35 bénévoles. En tout cas, on a plein de chiffres, mais surtout... des élans du cœur à vous raconter. On vous revient dans quelques instants.
Parfait.
De retour en studio avec André Fauché, président fondateur de Un cœur pour les autres, dont la mission est de soulager la souffrance des personnes en difficulté qui vivent dans la rue par des gestes concrets. Oui. Et ça, c'est important. Là, j'ai parlé de paires de bas de repas tout juste avant la pause. Parlez-nous là, concrètement comment vous aider.
En partant, c'est que nous, on s'est donné une mission importante, c'est de donner à manger.
Oui.
C'est un repas chaud.
La base. Hein?
La base, c'est un repas chaud. Mm-hmm. Puis, il s'est rajouté des choses avec le temps. Comme on parlait des bas, ça peut être des mitaines, ça peut être des gants, ça peut être des sleeping bags, des couvertures, ça peut être des toutes sortes, qui n'importe quoi, du manger à chien, manger à chat.
Oui, parce que c'est vrai, ils ont souvent des animaux.
Ils ont des animaux, on a des tampons pour les femmes, on a un paquet de choses qui sont rajoutées. Mais originalement, c'était un repas. C'est que ça a commencé comme ça.
Puis c'est vous, puis Linda, qui avez commencé à cuisiner.
Oui, je me suis trouvé une passion. Oui, on a commencé à cuisiner, je me rappelle assez bien, là, que quand je faisais la sauce puis les pâtes. Puis après ça, ben ça a été assez vite qu'on a eu quelqu'un faire des pâtes. Mm. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Ah. Mais on a eu d'autres personnes qui sont venues par après pour faire les pâtes. Maintenant, je fais plus les pâtes. Je vais être la gérer un peu.
Vous gérez les pâtes. Bon.
Quand je dis gérer, c'est pour être certain que la pâte, les sauces sont toujours à notre goût, à nous.
Ouais.
Parce que les gens dans rue sont des fines gueules pareilles. Là. Des fois, on dit, parce que les gens sont portés à donner du linge sale. Parce que nous, quand on reçoit du linge, on fait un tri.
Ouais.
C'est comme la même chose à la nourriture. On veut être sûr que qu'est-ce qu'on donne, ça soit mangeable, ça soit bon. Puis qu'est-ce qu'eux mangent, on le mange. C'est pas quelque chose que c'est un secret.
C'est ça, c'est qu'il faut le dire, là, vous êtes vraiment un organisme du cœur. Vous n'êtes pas un organisme gouvernemental, donc il n'y a pas la MAPAC qui vient vérifier la salubrité de ce que vous donnez.
Oui, la MAPAC.
Ah oui, OK.
On est obligé de faire partie de la MAPAC.
Okay.
J'ai été suivi des cours à la MAPAC, c'est juste pas bien loin d'ici. Là.
Mm-hmm.
Puis ici, j'étais venu suivre des cours. Pour être incorporé, pour être enregistré. Puis il y a un inspecteur, une inspectrice surtout qui vient, on pourrait dire une fois par deux ans à peu près, vérifier, voir notre installation, les températures, nourriture. Au début, ça a fait changer des choses parce qu'on savait pas quoi faire. Mais maintenant, on a pris, je pourrais pas dire une expertise, mais on sait où pas mal où
l'expérience,
on s'en va.
L'expérience, en tout cas.
Exactement ça.
Ça, est-ce que vous êtes toujours là dans... Parce que là, je lisais ça dans le dossier, c'était au sous-sol de votre maison.
Oui, mais ça a commencé dans le sous-sol de la maison. Toute la maison, tout le sous-sol était pris au complet. Notre cuisine était là, la préparation de nourriture. Mm-hmm. On avait une chambre qui était transformée en place de nourriture. On avait une autre chambre qui était pour le linge. On avait une autre place. Chaque chambre dans le sous-sol, parce que nos enfants étaient déjà partis, avait une vocation. Ça veut dire que notre maison, mais qu'est-ce qui arrivait, c'est quand on faisait à manger aussi dans le sous-sol et dans la cuisine chez nous en haut. Puis là, ma femme aimait moins ça un peu. Je la comprends, moi aussi. Mais ça a permis qu'on a pu continuer. Puis maintenant, depuis 5 ans et demi, on a un local, on a acheté un local dans le Vieux-Longueuil. Maintenant, on a une belle bâtisse dans le Vieux-Longueuil. On l'a aménagé à cuisine avec tout ce qu'on a besoin en stainless, des poêles au gaz. Avant, dans mon sous-sol, j'avais, je me rappelle bien, 16 congélateurs.
Quand même, là, c'est
ouais, j'en avais
chose.
Partout, tout le tour de la maison, à l'intérieur.
Vous êtes allé chercher ça auprès des dons?
La plupart, c'est des amis. Mm. Moi, je travaille plutôt avec des amis. Les compagnies, ils nous font peut-être pas confiance, je sais pas. Mais c'est tous des amis. C'est un congélateur, j'ai un congélateur de trop, je te le donne. Puis à la fin du compte, on avait partout, tout le sous-sol était rempli de congélateurs.
Je vois l'image, là.
Ouais, ça coûtait cher l'électricité.
Oui.
Mais c'est comme ça qu'on a commencé. Maintenant, on a deux walk-in, deux congélateurs. Ils ont à peu près 8 par 8.
Des congélateurs quasiment industriels comme des restaurants.
C'est comme des restaurants. Puis on a une cuisine pareille comme des restaurants pour les laver, les poêles au gaz. On est en, là, on est bien équipés. Je pense qu'on est bien équipés. Puis on a une petite salle aussi qu'on sert pour travailler. Puis quand on ne l'utilise pas, on loue la salle pour aller chez les revenus. Parce que les revenus, c'est notre...
Bien là, parlons-en, parce que c'est des équipements. Vous dites, on a acheté un local, il y a la nourriture. Comment vous êtes financé?
Bien, le financement, c'est la partie la plus difficile.
Mais ouais, comme beaucoup d'organismes.
Oui, puis, mais il y a une chose, c'est la foi. Quand on achète une bâtisse, on l'avait payé 450 000 $ quand tu dis ta maison, elle ne vaut pas 450 000 puis t'achètes 450 000 ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. on avait plus pour l'organisme. Mais pendant surtout les premières années, on pourrait dire les quatre premières années de l'achat de la bâtisse, on a eu beaucoup de dons, des amis. C'est tous des amis. Oubliez le gouvernement. Pour nous, le gouvernement n'existe pas. Là.
Il n'y a pas de financement.
Non, il n'y a rien. On a essayé, on a envoyé des courriels, on a envoyé des lettres, des informations, on n'a jamais rien eu. C'est tout des rejets.
C'est André et ses amis qui s'occupent de nourrir nos citoyens les plus démunis. Le gouvernement est...
Non, dans notre cas, nous, je ne dis pas qu'il n'y ait pas les autres, mais dans notre cas...
Votre contribution à vous.
Votre contribution, même assez qu'il y a, pendant la COVID, la Ville de Montréal, avec qui je fais affaire. Les autres m'ont appelé, ils ont dit, ben André, comment ça va financièrement? Peut-être, j'ai dit, c'est comme d'avant, ça n'a rien changé, on n'a pas plus d'argent qu'on avait avant. Mais ils ont dit, t'as dit, des subventions, ils en donnent beaucoup, parce qu'ils en parlaient beaucoup dans ces années-là, ça va pas si loin que ça. Ben, j'ai dit, oui, on a fait des demandes, mais on n'a rien eu. Ils ont dit, voyons, demandez, ça se peut pas. Là, on va te donner nos contacts. Là, ils m'ont donné leurs contacts, puis j'ai refait une demande, les demandes. J'ai été refusé encore. Puis là, j'ai rappelé la ville, puis je lui ai dit, nous autres, ici, dans le secteur ici, c'est Ville-Marie. J'ai rappelé les personnes qui étaient en charge à Ville-Marie, je leur ai dit, on n'a rien reçu, puis on a reçu un refus. Puis je leur ai envoyé un courriel confirmant que c'était un refus. Mais ils ont dit, ça n'a pas de bon sens. Ils ont dit, nous autres, on va t'aider. Ils m'ont envoyé 3 000 $
OK. Non, ça fait pas. Ça fait.
Ben, j'étais content de ça.
C'est mieux que rien, mais on fait pas longtemps là, pour faire du macaroni à viande avec ça.
Non,
puis
vous savez tout ce qu'on donne, les camions, la bâtisse, l'électricité, tout. Mais pour moi, c'était beaucoup. Parce que quand t'as rien eu, d'un coup, il y a quelqu'un qui décide de donner 3 000 $ C'est arrivé une fois qu'on a eu 3 000 $ mais peut-être le timing était bon, mais ça a parti vite. Mais tout ça pour dire que. C'est la fidélité des gens autour. Puis ça en prend beaucoup.
Vous êtes mis aussi à organiser des événements bénéfices?
Au début, on a fait, mais c'était pas tellement payant. T'sais, on a fait des soupers, comme on entend parler des spaghettis, ça fait de même, pour faire un...
Vendre des pâtes pour pouvoir en donner.
Oui, puis qu'est-ce qui arrive, c'est que faut que tu t'organises, tu loues la salle. Il y a des coûts assez élevés que... Le travail, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. C'est plus payant envoyer des lettres et dire aux gens, dire ben, on a besoin d'aide, que de faire un souper. Je dis pas que c'est pas c'est
mauvais. Mais il y a votre formule de lavoton, ça?
On a fait des lavotons, puis en même temps, des lavotons, on a fait ça dans le Vieux-Longueuil. On a fait beaucoup de lavotons, puis aussi en même temps, on faisait des ventes de garage. Ça a été très bon. Mais parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu demandes une fois, c'est facile. Deux fois, c'est facile. Trois fois, c'est encore plus un petit peu plus difficile. Mais quand tu en demandes trop, c'est que tu as moins de bénévoles. Ça veut dire que même si la formule est bonne, les gens disent, « Oups, là, telle date, je peux pas. Telle date, je peux pas. » À un moment donné, les lavotons, qui étaient super bons, c'était super bon, là. Ça a tombé un peu, on a arrêté ça. Parce que pas parce que c'est pas bon, c'est parce qu'on manquait de monde. Puis notre clientèle, nos bénévoles vieillissent aussi.
Ouais.
Ça veut dire que les gens disent, moi aussi, je devrais en faire chez nous. Là.
Est-ce qu'on fait un appel à de la relève en bénévolat pour vous aider?
Je suis très, très touché avec ça.
Ah, d'accord. Racontez-nous.
Oui, c'est parce que c'est pas n'importe qui que... on a beaucoup de bénévoles.
Combien, à peu près?
Ben, actuellement, on travaille, on a 16-17 à nos locaux, puis 16-17 dans la rue. C'est-à-dire quand on vient ici, on vient deux véhicules plus un automobile.
Ah, ouais, quand même.
On est pas mal de. On est une bonne gang. Mais ce qui arrive, c'est que l'ensemble, dans la rue, oh, c'est plus jeune. Mais quand on arrive au local, parce pourquoi oh, c'est plus difficile au local, c'est parce que c'est dans la journée. Ça veut dire que le jour, les gens travaillent.
Il y a plein de retraités là, qui...
C'est ça. Mais les retraités sont... malades pour ci, malades de ça, voir le docteur. Ils ont d'autres activités. Puis aussi, sont disponibles. Mais c'est pour ça qu'on dit retraités puis bénévoles. Bénévoles, ça veut dire quand ils sont disponibles. Mm-hmm. Mais nous, quand on dit c'est telle journée, telle heure, c'est pas le lendemain.
Vous avez besoin de pouvoir compter sur
les
gens.
C'est des bénévoles. Ça nous prend des bons bénévoles.
Des bénévoles fiables. Là, vous avez même fait l'acquisition d'une ambulance.
Oui, ouais. Ça, au début, ça, on l'a plus, l'ambulance.
Okay.
C'est un beau véhicule. On l'a acheté de l'Armée du Salut.
Mm-hmm.
L'Armée du Salut, on travaillait beaucoup avec l'Armée du Salut. Moi, en tant que contracteur, sans le savoir, à un moment donné, je suis arrivé, puis c'était à l'Armée du Salut. On a fait des travaux, puis je me suis mis ami avec un des dirigeants, puis à un moment donné, il y avait une ambulance, qui est une belle ambulance. Mais qui n'avait plus de besoin. Puis moi, je l'ai acheté pas cher, là. Je l'ai acheté. L'inconvénient de l'ambulance, c'est que on pense que c'est smooth, mais c'était pas si smooth que ça. Ça veut dire que quand on mettait de la sauce, il fallait la tenir comme il faut parce que il y avait de la sauce partout.
Ah, André, si on veut en savoir plus là, sur Un cœur pour les autres, est-ce que vous avez un site Internet?
Oui, on a un site Internet. C'était une des premières choses qu'on a faites, c'est un site Internet. Mais encore là, c'est malheureusement, on n'a pas de personnel.
Ouais.
C'est-à-dire que quand on demande, oh, André va te faire ça, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, André, on va te faire un site. Là, quand ils commencent, c'est plus compliqué qu'ils pensent.
Ouais.
Ils n'ont pas le temps. Puis là, tes appels, tu dis quand est-ce, là?
Oui,
je commence, mais ils ne commencent jamais.
Bon, ben, on va envoyer ça dans l'air, qu'il y ait quelqu'un qui veuille finir ça pour vous, puis que vous soyez encore plus présent, puis que les dons affluent. Merci beaucoup, André, d'avoir été avec nous. C'était André Fauché, président fondateur d'Un cœur pour les autres. Restez avec nous. Après la pause, on parle avec le clown humanitaire Guillaume Vernette.